Vous allez écouter une émission réalisée par la classe de 4e 2 du collège Jean Garcin de L'Isle-sur-la-Sorgue.
Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte et avec mes camarades, nous allons vous présenter divers sujets autour de l'environnement.
Commençons par parler d'un sujet qui capte l'attention de beaucoup de jeunes, les influenceurs. Comment faire pour nous sensibiliser à la cause écologique ?
Les influenceurs peuvent nous sensibiliser à la cause écologique en montrant l'exemple sur les réseaux sociaux. À travers leurs vidéos, ils partagent des gestes simples à faire au quotidien, chez soi ou dehors, comme ramasser les déchets dans la rue ou dans un parc. Par exemple, lors d'événements comme le World Cleanup Day. Certains créateurs de contenu, comme Enjoy Phoenix, donnent aussi des conseils concrets pour réduire ces déchets. Utiliser une gourde réutilisable, acheter en vrac ou choisir des vêtements de seconde main. Ce sont des petites actions, mais mises bout à bout, elles peuvent vraiment faire la différence. Comme beaucoup de jeunes leur font confiance, les influenceurs peuvent encourager leurs abonnés à trier leurs déchets ou à adopter des habitudes plus respectueuses pour la planète. Certains vont même plus loin en collaborant avec des marques engagées comme Patagonia, connue pour ses actions en faveur de l'environnement, afin de mettre en avant des produits plus responsables fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ils peuvent aussi lancer des défis collectifs, par exemple une semaine sans plastique ou un mois de consommation locale, un peu dans l'esprit Zero Waste France. Grâce à leur visibilité, ils ont donc un vrai impact et peuvent encourager surtout les jeunes à adopter des comportements plus écologiques.
Merci Clément pour cet article. Au fait, pour les fans de musique, savez-vous qu'il y avait des titres musicaux sur l'environnement ?
Alessandra et Cyrine B ont d'ailleurs fait un article sur la musique nommée « Debout » de Cyril Dion. Mais quel message veut-il nous faire passer ?
Nous allons donc vous présenter Cyril Dion et nous allons nous demander quel message il veut faire passer à travers son clip « Debout ». Tout d'abord, qui est Cyril Dion ?
De son vrai nom, Cyril Jésus Dion. Il est né le 23 juillet 1978 à Poissy. Après ses études, il devient journaliste. En 2006, il dirige l'association Colibri sur la transition citoyenne. Ensuite, Cyril Dion continue sa carrière en tant qu'écrivain. Il est donc l'auteur d'une douzaine d'ouvrages pour tous les âges sur l'écologie. Il est aussi le réalisateur de 4 films sur les enjeux écologiques, dont Demain, son film le plus connu. Ensuite, quel message veut-il nous faire passer dans son clip Debout ? Le message principal est de ne pas rester sans bouger face aux injustices. Il encourage les gens à réfléchir et à agir au lieu de laisser faire. Il appelle aussi à la solidarité.
Enfin, comment transmet-il le message ? Le message est transmis par les paroles qui sont fortes et directes. Les images qui montrent des gens ordinaires, qui montrent que tout le monde est concerné. Il y a aussi le rythme et la musique qui donnent de l'énergie et de l'espoir. Enfin, il y a le mot « debout » qui symbolise le fait de ne plus se taire ni d'accepter la situation.
Merci pour cette intervention. Pour continuer avec les chanteurs, comment la musique « Monsieur Tout le Monde » de Aldebert évoque la protection de la planète ?
Kea et Firdaus vont nous présenter et nous expliquer tout ça.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une chanson qui fait réfléchir tout en nous faisant sourire. « Monsieur Tout le Monde ». Aldebert est un chanteur français, né le 7 juillet 1973 à Paris.
Pendant ses études au lycée, il était dans un groupe nommé White. Il est auteur et interprète. Ses œuvres les plus connues sont « Le Sans-Ventillage ». Le chanteur est connu pour ses feats et ses musiques destinées aux enfants. Dans « Monsieur Tout le Monde », il dénonce le mauvais comportement des humains envers la planète. La musique est sortie en 2017 dans l'album « Enfantillage 3 ». Dans les paroles, Aldebert montre que tout le monde pollue, jette ses déchets, donc cela montre que tout le monde n'est pas responsable.
Par exemple, c'est pas moi, c'est les autres. L'artiste dénonce le fait que chacun rejette la faute sur les autres. De plus, à travers ses paroles simples, il dénonce la pollution, le gaspillage et le manque de respect envers l'environnement. Cette chanson permet aux jeunes de comprendre facilement les dangers de la pollution pour notre planète. Le ton humoristique attire l'attention et aide à faire passer le message plus facilement sans s'ennuyer.
Merci les filles. Maintenant, Olivia et Manon vont intervenir pour nous expliquer comment les artistes défendent la pollution, l'écologie, la surconsommation et la déforestation.
Bonjour à tous, nous avons vu que les artistes engagés pour le climat utilisent souvent leurs œuvres pour dénoncer les causes de la crise écologique.
Par exemple, Pamela Longobardi crée des sculptures et des installations artistiques à partir de déchets collectés sur les plages du monde entier pour alerter sur les dégâts de la pollution plastique dans les océans.
Et oui, il y a aussi Franz Kraschbert qui alerte le monde sur la déforestation en peignant et sculptant. Il défend la planète dans ses œuvres et essaye d'être original.
Par exemple, il crée des sculptures en utilisant des éléments naturels comme l'eau, la terre, les pigments et le bois.
Il a créé une œuvre appelée Semtitulo qui est une gravure.
On peut également parler du photographe nommé Sebastião Salgado qui était franco-brésilien et qui a contribué grâce à ses photographies à dénoncer cette situation de déforestation et ses pratiques écologiques.
À travers leur image où la nature est défigurée et où les activités humaines dégradent l'environnement, ces photographes jouent donc un rôle fondamental dans la sensibilisation à préserver l'environnement.
Merci les filles.
Depuis tout à l'heure, nous parlons d'écologie. Mais saviez-vous comment le traitement du sujet de l'écologie a évolué depuis les années 70 ? Charlotte a justement fait un article pour répondre à cette question.
Effectivement, comment le traitement du sujet de l'écologie a-t-il évolué dans les journaux en France depuis les années 70? Les journaux en parlent-ils plus ou moins? Pour commencer, entre les années 1970 et 1990, l'écologie était très peu abordée, ou alors uniquement lors de catastrophes naturelles comme les accidents industriels, la pollution, etc., comme je l'ai lu dans lemonde.fr. Ce sujet était vu comme moins important que l'écologie ou encore la politique. Il apparaissait donc dans les pages spécialisées. Entre 1970 et 1990, l'écologie était très peu présente dans les médias ou la presse. Ensuite, dans les années 2000, les scientifiques se posent plus de questions. Et cette fois, l'écologie entre dans les pages politiques, donc plus de visibilité. Mais les articles ne donnent pour l'instant pas leurs avis d'après le site AECO. Dans les années 2000, l'écologie apparaît petit à petit dans les journaux. Puis, dans les années 2010, l'écologie apparaît de plus en plus de façon urgente à cause des problèmes comme la pollution ou le réchauffement climatique. On découvre ainsi que l'écologie concerne plusieurs domaines comme la société, la santé ou l'économie. Pourquoi ? L'état de l'environnement influence la santé, les inégalités et la façon de vivre ensemble. La pollution rend les gens malades et elle coûte cher. Mais l'écologie peut créer des emplois et encourager une économie plus durable, comme nous le dit observatoiremediaecologique.fr. Dans les années 2010, l'écologie apparaît déjà assez pleinement mais pas assez sensibilisée. Enfin, aujourd'hui, entre 2020 et 2026, l'écologie a une place beaucoup plus importante dans les journaux ou dans d'autres domaines. Maintenant, il existe des jeux vidéo sur l'écologie. Les influenceurs en parlent. Il y a même des chansons et poèmes sur l'écologie. Quand on en parle, on sensibilise vraiment les gens. Et maintenant, les réseaux, les médias et les journaux prennent position pour donner leurs avis. Entre 2020 et 2026, l'écologie est pleinement importante, présente et urgente.
Merci Charlotte pour cet article. En parlant de jeux vidéo sur l'écologie, Damien va nous présenter les 5 meilleurs jeux vidéo sur l'écologie.
Voici la liste des 5 meilleurs jeux vidéo sur l'écologie. En 5e position, le jeu Oxygen Included. Le but du jeu, c'est que vous êtes chargé de gérer et de prendre soin de vos duplicants qui tentent de survivre et de créer une colonie spatiale, improvisée et durable, pour recréer une nouvelle planète. En 4e position, le jeu Sword of the Sea. Votre but est de collecter des graines d'océan pour faire revenir la vie marine. Et vous pourrez découvrir d'autres univers marins. En 3e position, le jeu Root of Tomorrow. Votre objectif, c'est que vous êtes un agriculteur et vous devez faire une exploitation agricole. Et vous découvrirez de nouvelles plantes, fruits et légumes. En 2e position, le jeu Terranil. Votre but est de changer une terre stérile et sans vie en un écosystème riche et prospère. Vous pourrez redonner une deuxième chance à cette terre. Et en 1ère position, le jeu Beyond Blue. Vous serez dans une aventure narrative en solo qui vous plonge dans le cœur de notre planète se déroulant dans le futur.
Merci à toi pour cet article, mais je me posais justement une question. Quels sont les pays les plus écologiques? Je crois que Charlie, Jessie et Camille peuvent me répondre.
On s'est intéressé aux pays les plus écologiques. Qu'en est-il du classement en 2025?
Si l'on prend en compte tous les critères du Good Country Index, la Suède est la destination la plus écologique du monde en 2025, outre sa politique de sortie environnementale. Ce pays scandinave est également leader des énergies renouvelables en Europe.
Il y a aussi d'autres pays qui diminuent leur consommation d'énergie, comme l'Islande qui met en place des parcs éoliens, la Finlande où les habitants ont un avenir à faible émission carbone.
La Norvège où on observe une transition vu les énergies vertes, le Danemark avec sa hausse significative des taxes carbone.
Puis la Suède, ils mettent en place des modes et énergies solaires.
Pour finir, ainsi tous ces pays agissent pour améliorer la planète et sont source d'inspiration pour les autres pays.
Merci pour cet article. Je crois que Charlotte a donc la réponse à sa question. Mais moi aussi j'en ai une. Comment les médias ont-ils parlé des incendies au Canada en 2024? Et comment cela agit sur le comportement des habitants?
Ces dernières années, le Canada a été touché par des très importants incendies de forêt. En 2023, ces feux ont été particulièrement impressionnants. 10 millions d'hectares ont brûlé et des centaines de milliers de personnes ont dû évacuer leur logement. Ces événements ont été très largement relayés par les médias du monde entier. Cette forte médiatisation a eu un impact sur la manière dont les populations perçoivent l'environnement et sur leur comportement écologique.
La présentation des incendies par les médias. Les médias, télévision, journaux, sites internet et réseaux sociaux ont montré des images spectaculaires de forêts en flammes, de villes envahies par la fumée et de populations déplacées. Et ils ont souvent expliqué que ces incendies étaient favorisés par le réchauffement climatique, qui entraîne des températures plus élevées et des périodes de sécheresse plus longues.
De nombreux reportages ont aussi insisté sur les conséquences sanitaires.
Notamment la mauvaise qualité de l'air causée par la fumée qui a touché non seulement le Canada mais aussi les États-Unis.
Cette présentation a rendu le problème très concret et visible pour un large public.
les effets sur la prise de conscience écologique.
Grâce à cette couverture médiatique, beaucoup de personnes ont pris conscience que le changement climatique n'est pas un phénomène lointain ou abstrait. Les incendies du Canada ont montré que les activités humaines peuvent avoir des conséquences graves sur la planète.
Les médias ont ainsi contribué à une sensibilisation écologique. Davantage de personnes se sont intéressées aux questions environnementales, à la pollution de l'air et à la protection des forêts. Les discussions autour de l'écologie et du climat sont devenues plus fréquentes dans la société.
Des changements de comportement observés. Ces événements ont encouragé une partie de la population à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement.
Comme faire plus attention à leur consommation d'énergie ou soutenir des actions en faveur du climat.
Les limites de l'influence des médias. Cependant, l'impact des médias reste limité. Tous les médias ne présentent pas les incendies de la même façon. Certains minimisent le rôle du changement climatique ou diffusent des informations contradictoires. Cela peut créer de la confusion et freiner l'adoption de comportements écologiques durables.
Pour conclure, la présentation médiatique des incendies du Canada a joué un rôle important dans la prise de conscience écologique des populations.
En montrant des images fortes et en expliquant le lien avec le réchauffement climatique, les médias ont influencé les comportements et les réflexions sur l'environnement. Même si ces changements ne sont pas toujours durables, l'information reste un outil essentiel pour encourager la protection de la planète.
Merci à Fin Lia Menaïl, mais précédemment nous parlions d'artistes. Revenons sur le sujet.
Comment le peintre Demiak délivre-t-il un message écologique ?
Bonjour, pour commencer nous allons parler de Demiak, ce sont des informations issues de la Fabrique des Récits et Boom Bang.
Demiak, de son vrai nom Martin Demi, né en 1967, est un peintre, photographe et sculpteur néerlandais. Il a aujourd'hui 58 ans.
Il est diplômé par l'Académie royale des beaux-arts de La Haye aux Pays-Bas en 1992.
Dans ses peintures, il représente la nature, l'industrie et évoque le réchauffement climatique dans des paysages post-apocalypse, ce qui veut dire après une catastrophe naturelle, et il tente de dégager le caractère flagrant du désastre.
Mais il peut aussi métamorphoser les paysages cadavres en une vision avènementielle, c'est-à-dire une empreinte de sobriété fortement poétique, futuriste et des paysages arcadiens. Il s'inspire de Piero della Francesca et de Léonard de Vinci.
Maintenant, nous allons vous décrire une de ses œuvres. C'est la 9e de la série Memoirs of Loss, qui se traduit par Souvenirs de perte. C'est une peinture à l'huile de 19 sur 26 cm qui est réalisée en 2015.
Au premier plan, on peut apercevoir un sol abîmé, des débris et des textures qui font penser à des traces du temps. Au devant, il y a un arbre mort qui voile la maison.
Au second plan, il y a une maison délabrée et vide. On peut supposer qu'elle a subi un désastre. Cette maison blanche, avec plusieurs fenêtres et un toit bleu, est aussi très abîmée. Elle montre la fragilité et la perte. Au loin, on y devine d'autres habitations dans le même état.
On peut aussi observer des couleurs grisâtres et une ambiance calme et triste. C'est un ensemble vide sans personnages, c'est donc un paysage post-apocalypse.
Demiak délivre un message écologique en nous sensibilisant au réchauffement climatique.
Merci Cyrine et Lia, dis donc, aujourd'hui on apprend plein de choses. Le saviez-vous, Avatar 3 nous sensibilise aussi. Mais comment ? Emeo peut nous répondre.
Le film Avatar 3 se passe sur la planète Pandora, mais il parle aussi de la Terre grâce à la nature et aux animaux. Le film montre que la nature est importante et qu'il faut la respecter. Les personnages vivent en harmonie avec leur environnement et font attention aux forêts et à l'eau. Le film montre aussi les dégâts causés par les humains qui détruisent la nature pour gagner de l'argent. Cela nous aide à agir sur l'écologie et à faire plus attention à nos actions. Pour conclure, Avatar 3 n'est pas seulement un film, c'est aussi un message pour protéger la planète et prendre soin d'elle, car c'est ce que nous transmettrons plus tard à nos enfants.
Merci Emeo. Et ensuite, Yann Arthus Bertrand, comment nous sensibilise-t-il ?
Yann Arthus Bertrand est né en 1946. À 30 ans, il part au Kenya avec sa femme, Anne. Là-bas, il observe le comportement d'une famille de lions pendant 3 ans. Il revient en France en 1981 et publie un livre s'intitulant « Lions ». Yann devient un photographe de grands reportages et en 1991, il fonde Altitude, la première agence de photographie aérienne dans le monde.
Militant convaincu du développement durable, il crée le 1er juillet 2005 l'association Good Planet. C'est l'auteur de Vue du ciel, une série documentaire télévisée dont chaque épisode explore une problématique écologique particulière. L'émission s'exporte dans 49 pays du monde. Il réalise un film documentaire, Homme, sur l'état de notre planète.
La fondation Good Planet, qu'il a créée, on le rappelle, en 2005, compte de nombreux projets de terrain et également des ateliers de sensibilisation pour les plus jeunes notamment. Parmi ces projets, Good Planet propose la préservation de l'Amazonie équatorienne, préserver la biodiversité dans le delta du Saloum au Sénégal,
améliorer la résilience économique et environnementale à Madagascar, planter et entretenir durablement les haies en Loire-et-Cher, restaurer la biodiversité dans les fermes de la Drôme, gérer l'eau et la restauration des écosystèmes dans les Andes et encore plein d'autres projets. Il propose également des ateliers de cuisine et d'alimentation durable, des conférences et pour finir des ateliers pour les scolaires et les associations.
Merci à Romane et Albertine pour cet article.
Serena, comment le recueil du poème « Cueilli dans la forêt de vos yeux » de François Lison-Lenoir nous montre-t-il la beauté du monde ?
J'ai choisi de vous présenter le recueil de Françoise Lison-Leroy, « Poème cueilli dans la forêt de vos yeux » publié en 2022. Elle est née en Belgique le 6 octobre 1951. Elle est l'auteur d'une trentaine de recueils. Le prix de poésie François Coupé de l'Académie française a recomposé en 2020 « Les Blancs en pain ». Les poèmes du recueil que j'ai choisi me touchent car avec leur forme brève, avec des mots et des images simples, ils nous relient à la nature, à notre nature. Un grand pays te manque, je le lis dans tes yeux, mais chez nous, toi aussi, tu as pris la place d'un univers. Dans le bois, sous l'orage, tu te couvres de feuilles, j'aperçois à la nage un petit écureuil. Dans ces yeux-là, la vie s'endort comme un loir, la poésie s'éveille tout bas, c'est déjà le soir.
Merci Serena pour cet article.
Et enfin, François Labande est-il impliqué dans l'écologie ? Iba peut nous répondre.
François-Pierre Labande est un alpiniste et un écologiste toulonnais, né le 11 mai 1941. C'est aussi un écrivain français. Il est cofondateur de la section française de l'ONG. ONG veut dire organisation non gouvernementale. Il s'est très tôt passionné pour la montagne. Il pratique l'alpinisme, l'escalade et les courses de haute difficulté dans les Alpes. Il fait l'ouverture de nombreuses voies d'escalade et d'alpinisme. Il écrit plusieurs guides à ce sujet. En plus d'être alpiniste, François Labande est aussi journaliste spécialisé dans les pratiques professionnelles et auteur de livres. Il a aidé à préserver la mémoire de l'alpinisme, a rendu les montagnes plus accessibles et compréhensibles grâce à ses guides. François Labande est donc à la fois un grand alpiniste et un passeur de savoir. Son travail n'est pas que ses capacités sportives. Il a marqué le monde de la montagne grâce à ce qu'il a écrit, qui continue d'aider et inspirer les jeunes alpinistes aujourd'hui.
Flash info, les incendies de forêt organisés. Les médias montrent souvent des images dramatiques, animaux blessés, maisons détruites et forêts en flammes. Cela crée une émotion forte chez le public et pousse à accepter de nouvelles lois ou gros financements pour la protection de l'environnement. De plus, les pompiers arrivent trop tard, alors que les technologies comme les satellites peuvent repérer un feu très rapidement. Souvent, les terrains brûlés deviennent des lotissements, des usines ou des routes, comme au Canada ou à Los Angeles. Les dirigeants américains parlent très souvent du réchauffement climatique à chaque catastrophe pour nécessiter les financements supplémentaires pour des associations ou encore la replantation d'arbres. Les causes précises ne sont pas toujours rendues publiques. Certaines industries comme le tourisme et l'immobilier gagnent beaucoup d'argent avec certaines catastrophes. On peut aussi voir que les terrains deviennent plus accessibles et moins chers après un feu, ce qui permet de construire plus facilement. Le prix baisse d'environ 25%. Les incendies de forêt seraient donc provoqués volontairement par le gouvernement, des grandes entreprises ou des associations écologistes pour libérer des terrains, manipuler la population et obtenir des gains économiques.
Attention, ce texte est une fake news. Les techniques utilisées pour convaincre. On a joué sur les émotions, animaux blessés, maisons détruites, les émotions rendent le texte plus convaincant. On a répété les idées importantes, les zones exploitées, la répétition rend plus crédible. On a donné des détails précis, les terrains deviennent des lotissements, des usines ou des routes. Les détails rendent l'histoire plus réaliste et facile à croire. On a utilisé des faits réels, les incendies, les maisons brûlées et les animaux en danger. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur les médias. Certaines informations sont fausses et inventées. Vérifiez ce que vous voyez.
Merci à tous pour ces articles. Maintenant, vous savez tout sur la sensibilisation de l'écologie par l'art et les médias.
C'était la classe de 4e 2 du collège Jean Garcin de Lille-sur-Sorgue.